culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue à notre culte espoir. Avec moi aujourd'hui, Briand, bienvenue.
Bonjour, bienvenue, merci.
Et également Isabelle Brouzet qui nous fait le plaisir d'être à nouveau parmi nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Isabelle, comme nous l'avons dit la semaine dernière, tu as été des années engagée dans l'église lusophone de Genève, puis depuis quelques temps dans l'église Conviva. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour te présenter ?
Oui, dire que... Être au service d'une église, c'est être au service de Dieu. Et le fait d'être dans une ou autre église, ça ne change en rien. Le plan de Dieu, c'est aider les autres à se trouver, à se retrouver avec son Dieu. Donc, je suis très contente de participer dans ce plan, dans ce nouveau plan, dans cette nouvelle aventure avec Dieu.
Et tu viens servir aujourd'hui à la radio, merci beaucoup.
Merci.
La semaine dernière, tu nous as parlé de Genèse 3, quand Dieu se promène dans le jardin alors que Adam et Ève se sont cachés après avoir mangé du fruit interdit. Et Dieu les interpelle en leur posant la question « Où es-tu ?» Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler aussi de Genèse 3, mais des versets qui se trouvent un peu plus loin dans le chapitre. Pourrais-tu nous dire en quelques mots ce que tu veux nous partager aujourd'hui ?
Bien sûr. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Le chapitre 3 de Genèse, c'est le plus triste chapitre de la Bible. » Et à vrai dire, je me suis plongée dans ce chapitre parce que je ne savais pas si j'avais lu le même. Je me suis dit « Tiens, c'était pas exactement l'idée que j'avais. » Sûr que c'est un chapitre triste. Mais il a tellement d'espoir dans ce chapitre que j'ai voulu étudier un peu plus et prendre mes conclusions. Donc, dire à Amandine et à tous ceux qui m'écoutent, c'est des partages de conclusions personnelles. C'est comme si, quand je lis, c'est « Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire à moi ?» Et en quoi ça peut changer ma vie ? Donc, on va parler d'un chapitre qui peut être triste pour quelqu'un, mais je vais montrer qu'il y a plein d'espoir dans ce chapitre.
Ouais, tu titilles ma curiosité. Je me réjouis de t'entendre. En attendant d'en entendre plus, justement, j'aimerais prier avec vous. Alors Seigneur, viens nous inspirer et nous guider pendant ce moment de culte, que ce temps te rende gloire et te soit agréable. Merci pour qui tu es Seigneur, sois loué et honoré, doux Papa Céleste. Amen.
Amen. Et bien justement, ce thème-là me fait un peu penser dans une certaine mesure à ce que j'ai vécu ces dernières semaines où j'ai eu pas mal de défis. Des défis qui m'ont mené à la tristesse, à la colère, au découragement. Et pour ma part, ces événements m'ont conduit à faire des choix qui n'étaient pas vraiment les bons. Cela engendre des conséquences, des conflits, des doutes, un repli sur soi, des moments difficiles à vivre. Et dans ces moments, il est parfois difficile de voir où est-ce que Dieu veut me mener, quels sont les plans pour moi. Puis j'ai eu, il y a quelque temps, l'opportunité de faire un voyage en cyclotourisme, un voyage de 4 jours que j'ai partagé avec mon ami et cousin. C'était un voyage prévu de longue date, un défi physique, mais je le crois aussi une aventure spirituelle. Je crois que j'avais envie de prendre de la hauteur pour me tourner vers ce Dieu d'amour. Ce voyage m'a permis de m'arrêter un instant, ce qui est assez paradoxal pour un voyage, pour penser à Dieu et à ce qu'il veut pour ma vie. Et pendant mon avancée sur mon vélo, j'avais des versets qui me venaient en tête, des versets de joie, des versets de victoire, d'accompagnement, des versets qui m'ont redonné des forces. J'ai pu aussi mettre et remettre entre les mains de Dieu mes inquiétudes, mes difficultés, mes joies, mes doutes, mes défis en d'autres termes. Et dans ce road trip de 4 jours où je me suis dépassé, on peut le dire, où j'ai parcouru plus de 300 km, où j'ai voulu relever un défi personnel, faire plus de 2000 mètres de dénivelé positif, j'ai vécu des moments qui m'ont permis de mettre des mots sur ce que je ressentais et en faire part à Dieu afin qu'il puisse me soutenir. À travers ce défi personnel relevé, je me suis rappelé que Dieu est à mes côtés, dans mes échecs, mais aussi dans mes victoires, qu'il m'a créé capable de relever les défis de ma vie, capable de sortir de mes zones de confort, capable de me dépasser et de saisir les victoires qu'il sait que je peux remporter. Pour toi, ce genre de voyage intérieur prendra sûrement une autre forme. À toi de trouver la forme qui te correspond. Laisse-toi surprendre. Après avoir passé un moment difficile dans ma vie, ces versets que j'avais lus il y a longtemps sont revenus pour me donner un élan pour avancer et me réjouir de son plan de bonheur pour moi. Que cela puisse t'encourager à être authentique avec lui malgré les choses que tu pourrais faire de travers. Dieu te tendra toujours la main. Amandine, qu'aimerais-tu nous proposer pour la promesse du jour ?
Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir au chapitre 3 de la Genèse, où après une grosse bêtise de la part de l'homme, Dieu lui dévoile les conséquences du péché, mais aussi une partie du plan du salut. Cela m'a fait penser à un verset que j'aimerais partager avec toi comme promesse du jour. Il se trouve dans les Proverbes, au chapitre 23, les versets 17 et 18. « N'envie pas intérieurement les pécheurs. » mais sois constamment soumis au Seigneur, alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Il est bon de se rappeler que quand je choisis Dieu dans ma vie, bon parfois cela peut me donner l'impression très humaine de faire un choix contraignant, mais en fait, Dieu me garantit un avenir. Il me promet une espérance qui dépasse tout ce que ce monde peut m'offrir. Dieu ne nous laisse pas dans le chaos face aux conséquences du péché dans nos vies. Il nous ouvre et il nous offre une autre voie. Une vie avec lui qui est capable de tracer un chemin vers la vie éternelle. Personnellement, c'est une promesse qui m'encourage et dont je veux me souvenir. Je t'invite à rentrer dans un temps de louange. Plus que d'écouter des jolis chants, c'est un temps où chacun est appelé à rentrer tout spécialement dans la présence de notre Dieu. Alors j'aimerais prier que le Saint-Esprit descende sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il inonde le lieu où chacun d'entre nous se trouve de sa présence, que ce soit dans ta voiture, ta cuisine, ton salon, notre studio, qu'il ouvre nos yeux, que nous puissions prendre conscience qu'en cet instant, Dieu est parmi nous.
Descends et viens, remplis nos vies, remplis ce lieu, remplis nos cœurs de ta présence. Ooh. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, viens. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Arrose-nous. Inonde ce
Jésus est là, à tes côtés aujourd'hui, et ce Dieu qui est à tes côtés maintenant est un Dieu qui, malgré tes erreurs, malgré tes limites, malgré les conséquences parfois douloureuses de tes choix et des choix d'autres qui ont eu un impact difficile sur ta vie, ce Dieu, il est là. Il veut te restaurer. Il peut transformer ta vie, ma vie, car il est tout-puissant. Il opère des miracles dans les situations désespérées. Il est lumière dans nos ténèbres, dans tes ténèbres. Il est mort et ressuscité pour toi et moi. Et c'est la raison pour laquelle je veux l'adorer. Et toi ?
Et oui, nous vivons dans une terre pleine de péchés, mais les yeux fixés sur Dieu. Nous pouvons nous rappeler confiants. Dieu nous promet un avenir avec lui, une éternité à ses côtés, un jardin plein de délices. Quel merveilleux héritage! Pour ce temps de témoignage pour la chronique Dieu agit, j'aimerais te parler d'une personne que tu connais peut-être. Il s'appelle Yanis Gauthier.
C'est une personne qui est aujourd'hui pasteur, conférencier, formateur, auteur de plusieurs livres et qui partage le témoignage singulier de sa conversion.
Alors Yanis n'a pas toujours été pasteur. Pendant son adolescence, il a grandi dans la cité des 4000, un quartier de la Courneuve en Seine-Saint-Denis à Paris. Il a grandi avec le discours que pour sortir de cette cité, pour évoluer dans la vie, il fallait vendre de la drogue. Issu d'un abandon de son père et d'une mère criblée de dettes, Yanis et sa famille essayent d'avancer tant bien que mal. Son grand frère commence à tomber dans la délinquance et commence une série d'allers-retours en prison à l'âge de 16 ans.
Alors les agissements du grand frère influencent le comportement d'Yanis. Il fréquente le monde de la drogue et tous les satellites qui gravitent autour, deals de drogue, toxicomanie, bagarre, alcoolisme, violence.
Il doit aussi faire face au décès de son frère suite à un règlement de compte. De ce fait, il s'endurcit, il se crée une carapace et très vite il commence, lui aussi, à se familiariser à la prison qu'il va fréquenter régulièrement.
Bon, alors tu dis familiariser ? Pour parler d'une prison, je t'avoue que c'est pas forcément le premier mot qui peut venir à l'esprit pour parler de ça.
Eh oui, mais j'aimerais te citer une phrase de Yanis qu'il partage dans un témoignage qu'il a fait pour la chaîne YouTube Street Press. pour ma première incarcération à la prison de Bois d'Arcy, je suis le plus jeune. Donc j'ai le droit à certains privilèges. 3 repas par jour, un matelas, une couverture, une télévision dans ma cellule, c'est mieux qu'à la maison. Je vivais dans un taudis à la cité, et là on me donne de l'attention. Je crois que cela répondait à mes besoins. Pour la première fois, on s'intéresse à moi, et on me donne à manger. Bref, c'est le 4 étoiles, je suis avec mes potes, c'est l'école de la vie, et je le crois. À cet instant, c'est la seule issue pour me sortir de la précarité. Interpellant, n'est-ce pas ?
En parallèle, Yanis croit fermement à un dieu. Il parle même de plan pour l'être humain, mais pour lui, à ce moment-là, Dieu existe, mais il ne l'aime pas.
Yanis souffre intérieurement. Il essaye de se réfugier dans l'alcool, la drogue dure, et à travers ses dérives, il vit un semblant d'existence. Mais il se rend compte au bout de quelques temps que c'est un cercle vicieux et qu'il ne s'en sortira pas. Il tente alors de mettre fin à sa vie plusieurs fois. Il tente des actions qui frôlent la mort. Yanis n'aime pas la vie. Pendant le temps qu'il purge à sa deuxième peine pour braquage, alors que tout le monde lui a tourné le dos, une femme vient le voir régulièrement. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est sa femme. Elle est enceinte et accompagnée de ses 2 enfants.
À chaque visite, c'est une épreuve. Yanis n'a pas envie de la voir. Il essaye de la décourager de toutes ses visites. Mais sa femme reste présente et continue à venir. Et elle lui parle de Jésus.
Évidemment, Yanis ne veut pas entendre parler de Jésus ou d'une divinité quelconque. Il en a pour 20 ans de prison. Si Dieu existait, il ne serait pas là, pense-t-il.
Puis les semaines passent, il tourne en rond dans cette cellule, il réfléchit, se questionne, et à chaque visite de sa femme et de ses enfants, c'est un moment difficile. Comment réagir à un amour pareil? Il n'en voulait pas et n'avait jamais rien reçu de personne dans sa vie.
Puis il commence à se poser des questions. Est-ce vraiment la vie que je vais offrir à ma femme, à mes enfants qui tiennent à moi? Et puis par-dessus tout, qui est ce Jésus dont elle parle et qui a l'air de lui donner la force de venir régulièrement dans cette prison? Puis, pendant l'une de ses visites, Yanis demande à sa femme « Penses-tu que quelqu'un comme Dieu peut me pardonner ?» Et d'un seul coup, sa femme se met à pleurer. Ce sont des sanglots, comme si un fardeau venait de tomber. Et elle lui dit
« Il y a tellement longtemps que je prie Dieu pour qu'il touche ton cœur, tellement longtemps que je pleure Dieu pour qu'il touche ton cœur. »
Et à partir de cet instant, une brèche s'est ouverte dans le cœur de Yanis. Et même s'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, sa femme savait que c'était le début d'une autre chose. Pendant une autre visite, elle lui dit
« Dieu peut te libérer. »
Alors évidemment, on pense peut-être à la libération du cœur de ses péchés, mais étant donné qu'il en avait pour 20 ans de prison, était-ce également une libération physique dont elle parlait? Eh bien, figure-toi que 7 mois après cette prise de conscience, Yanis est libéré. Oui, intérieurement, mais physiquement aussi, il sort de prison. Yanis sort de prison alors que sa femme est à la dernière semaine de grossesse. En rentrant à la maison, ils prient ensemble, avec leurs enfants, et à la fin de cette prière, sa femme lui dit « Prends ta valise, nous allons mettre notre 3e enfant au monde. » La suite de l'histoire, tu l'as entendu en introduction, Yanis consacre sa vie à parler de Jésus.
Thank you.
Donc, le jour où on m'a dit que le chapitre 3 de Genèse était le chapitre le plus triste de la Bible, j'ai vraiment voulu lire, comme j'ai dit, lire, mais lire avec des yeux, mes yeux à moi, pour voir si vraiment c'était triste. Et avant de commencer le chapitre 3, je vous invite à lire avant, donc le chapitre 1, Genèse 1, et verset 27. Dit la chose suivante, « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Et après, dans le chapitre 2, verset 25, c'est écrit, « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » Ça, c'est deux versets qui m'ont dit, « Donc, là, on n'est pas encore aux trois, donc tout va bien. Ils sont bien, ils sont image de Dieu, ils sont nus et ils n'ont pas honte. » Et quand Dieu créa l'homme et la femme, nous avons vu la semaine dernière, ils étaient nus. Donc, ils étaient parfaits, ils étaient nus. Ils avaient besoin de passer une épreuve, l'épreuve de l'obéissance envers Dieu. Et la Bible commence, le troisième chapitre commence en disant que le serpent, que dans ce contexte-là est Satan, qui est incarné par le serpent, était le plus rusé de tous les animaux. Dans ce mot-là, rusé, c'est exactement la même racine que nu. Ça veut dire rusé, c'est celui qui prend plaisir à dévêtir, à exfolier les autres. C'est exactement la même racine. Donc nous avons ici le mâle, Satan, qui est l'animal qui aime dévêtir les autres. Et après, on comprend mieux le verset 7, puis ils disent, on a pris conscience qu'on était nus. Donc, cet animal, ce Satan, va essayer de dépouiller l'homme et la femme de quelque chose qu'ils avaient avant. C'est celui qui enlève la protection. Donc, quand Adam et Ève cèdent à la tentation, qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'autre qui a changé? Je me suis posé cette question, parce qu'ils n'avaient pas honte, dans le verset 25 du chapitre 2, et après ils ont honte d'être nus. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques minutes? Parce que leur corps était parfait, donc ça ne se dégrade pas comme ça. C'est-à-dire, je ne m'imagine pas Adam regarder Ève et dire « mince, qu'est-ce qu'elle a grossi depuis il y a deux minutes, la cellulite, oh mince !» Et Ève, qu'est-ce qu'elle a vu en Adam qui l'a fait avoir honte aussi, quand ils sont regardés eux-mêmes? Donc, en quelques minutes ou en quelques heures, l'homme passe de être parfait, être bien, à avoir honte et avoir peur. Et le verset, donc 27 chapitre 1, nous donne la réponse. Ils disent que Dieu les créa à son image. Donc, ils étaient remplis de l'image de Dieu. Quand Adam et Ève cèdent à Satan, ils vont perdre cette image de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'Adam, quand il regarde Ève, il ne voit plus Dieu. Et quand Ève regarde Adam, elle le cherche, mais l'image de Dieu n'est plus. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, un homme qui n'est plus image de Dieu fait peur. Un homme, quand je dis un homme, une femme aussi. Ça veut dire un homme et une femme qui perdent les caractéristiques de Dieu font peur et font que des bêtises à la suite. Et nous sommes, à vrai dire, et c'est une tragédie pour l'humanité, nous sommes des spécialistes à dévêtir toutes les caractéristiques que Dieu a mises en nous et à vêtir celles que ne devraient pas nous appartenir. Ça veut dire, les caractéristiques de Dieu, c'est l'amour, la miséricorde, la patience, la joie. Et ça, on ne veut pas. D'ailleurs, dans nos sociétés, c'est pas des très beaux habits. Quand on dit qu'on est patient, on se dit « Oh non, tu es idiot ». Et nous préférons vêtir les caractéristiques de la société du mal. C'est la jalousie, la puissance personnelle, la tristesse, être enragé, être en colère. Tout ça, c'est valorisé. Alors que Dieu ne veut pas qu'on ait ça. Parce que ça n'appartient pas à l'image qu'il veut nous donner. Donc, ce qui va se passer à la suite, c'est très beau. Dans le chapitre 3, c'est que Dieu va parler personnellement à la femme et à l'homme. Et il y a des personnes qui disent, oui, mais les malédictions que Dieu donne à l'homme. Alors, moi, je ne vois pas ça, parce que il va dire à l'homme, le jour où tu mangeras du fruit interdit, ça veut dire, le jour où tu vas désobéir, tu mourras. Et nous savons à la suite qu'Adam va vivre 930 ans. Donc, dans cette malédiction, dans cette phrase qui est un peu malédiction, Dieu ne va pas provoquer la mort, ni va souhaiter la mort à Adam. Jamais. Au contraire, il va lui donner toutes les possibilités pour qu'il puisse continuer à vivre et vivre longtemps. Et c'est quelque chose de personnel. Je pense que ce verset-là, quand Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Il est en train de lui dire, le jour où tu mangeras, sûrement que je vais devoir mourir moi, pour que toi tu puisses continuer à vivre. Donc déjà ici il y a une promesse de protection et de vie éternelle. Mais ce n'est pas la première promesse en tant que telle de la Bible. Donc toutes les considérées malédictions que la femme aura des enfants avec douleur, c'est mieux que de mourir tout de suite. Je pense bien, quand il dit « tu auras des enfants avec douleur », Ève a dû se dire « ok, pour avoir des enfants, au moins je vais vivre 9 mois de plus ». C'est le temps dont j'ai besoin pour avoir un enfant. Donc c'est déjà mieux que de mourir tout de suite comme elle pensait. Et pour Adam aussi, si, Adam, si Dieu dit tu travailleras la terre, il va se dire mince, je vais travailler la terre, donc j'ai un sursis. Dire je vais pas mourir tout de suite, donc c'est bien. Mais ce qui est beau dans ce chapitre 3, c'est ce que Dieu va dire au serpent. Moi je le trouve beau et je partage avec vous. Jean, dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, Jean va parler qu'au début, c'était la parole. Que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Et il continue en parlant, donc on se rend compte que Jésus, c'est cette parole dont parle Jean. Si Jésus est cette parole, ça veut dire qu'en Genèse, c'est lui qui parle. Il parle dès le début, il dit au début, il était là et c'est lui qui parle. Donc tout ce que Dieu va dire à l'homme, à la femme et à Satan, c'est Jésus qui est en train de parler. Et là, j'aimerais partager, ça m'a bouleversé, ce que j'ai compris du chapitre 3, verset 15. Les versets disent la chose suivante. Jésus, en parlant avec le serpent, dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci, ça veut dire la descendance de la femme, t'écrasera la tête, et toi, tu l'écraseras le talon. » Donc Jésus est en train de dire ça à qui ? Au serpent qui est Satan. C'est considéré la première promesse biblique parce que Jésus est en train de dire ce que tu vas être détruit. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai interprété ça. Je ne vais pas changer le texte, simplement j'entends Dieu, Jésus, dire à Satan, « Toi, écoute-moi bien. Moi, je serai la descendance de la femme. » D'accord. Tu vas me blesser. Tu m'écraseras le talon. Je souffrirai à cause de toi. Mais parce que tu as fait ça, ça veut dire, parce que tu as enlevé de mes enfants l'image avec laquelle je les avais vêtus, parce que tu as fait d'eux quelque chose qui ne me ressemble presque plus, pour cela, moi, je t'écraserai. Jésus est en train de dire à Satan, ici, c'est fini. Moi, un jour, je viendrai et je t'écraserai. Et ça, c'est une promesse. J'imagine Adam écouter ces paroles. Adam, à partir d'ici, il a compris que les années du mal, malgré ce qu'il avait fait, et il a vu dans la nature que les conséquences de son péché étaient là, tout de suite. Il a dit, Dieu est en train de me dire qu'il écrasera mon ennemi. Et je trouve ça tellement joli parce que ces paroles-là, elles vont faire écho aujourd'hui dans ma vie. Chaque fois que je fais quelque chose qui enlève de moi l'image de Dieu, Jésus dit, je vais écraser cette chose-là. Elle sera détruite. J'ai le pouvoir pour détruire ce qui est en train de faire mal. Et avec cette promesse-là, ben, on se sent plus seul. On n'a pas... C'est un soulagement. C'est se dire, une fois j'ai entendu une phrase qui disait, un homme... Même s'il est, il a devant lui et contre lui des milliers de gens, un homme seul avec Dieu est toujours majorité. Un homme fidèle au Seigneur et en croyant à ses promesses, quelle que soit la difficulté qui est devant lui, il est toujours majorité. Il est toujours plus fort avec Dieu que s'il était avec les autres. Et cette promesse, Dieu est en train de me dire, je détruirai le mal. Moi, personnellement, je le prends comme un défi. J'imagine Jésus dire ça à Satan. C'est un défi maintenant. Tu me regardes bien. Un jour, je t'écraserai. Pourquoi ? Parce que mes enfants, ils doivent être vêtus de mes caractéristiques. Et je ferai tout pour que ça se fasse. Et c'est très intéressant parce que plus tard, Dieu même va faire à Adam des habits. Il dit... L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. C'est chapitre 3, verset 20. Et verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Ça veut dire, vous êtes nus. Mais l'agneau sera sur vous. Plus besoin d'avoir honte. L'agneau, qui était le symbole de Jésus qui viendrait, maintenant il est sur vous. Il vous couvrira. Plus besoin d'avoir honte. Voici, c'est la première fois où j'écrase déjà l'ennemi en vous habillant à nouveau avec la justice de Christ. Donc, bien sûr, je suis libre d'obéir, de choisir, libre de devenir à nouveau image de Dieu ou non. Moi, je décide d'être, donc je vais tout faire pour qu'il m'habille de toutes ces caractéristiques qui sont bonnes. Et le monde a besoin de personnes qui croient à cette première prophétie et qui croient que le mal sera détruit et qui croient que le Seigneur est celui qui nous justifie. Donc, toi et moi et tous ceux qui écoutent, nous sommes ici et nous devons être des exemples d'êtres humains qui ont failli, certes, mais qui croient à la destruction totale du mal et qui décide de se revêtir à nouveau de ce que Dieu a fait de nous et être à nouveau des caractéristiques de Dieu. Et j'imagine quelqu'un regarder Brian, brillant et dire oh, « Mais qu'est-ce qui ressemble à Dieu ?»
Amen.
Amen. Et toi, tu es ton épouse, faire comme Ève et dire « Mince, qu'est-ce qu'aujourd'hui il ressemble à Adam ?»
Ah ouais, qu'est-ce Adam qu'il est beau, mon mari,
qu'est-ce qu'il
Dieu.
Est beau et qu'est-ce que ses caractéristiques me font penser à mon Créateur. Et vice-versa, que chaque personne en nous regardant dise « Qu'est-ce que cette personne ressemble à l'image de Dieu au début ?» Et c'est tout ce que je souhaite à chacun de nous, c'est que nous puissions laisser à Dieu cette possibilité de nous rassurer qu'il détruira tout. Il a pris ça comme un défi personnel, mais surtout de refaire en nous son image si nous le laissons la possibilité.
Amen.
Amen. Si tu nous rejoins maintenant, tu te trouves au culte Espoir.
Dans cette chronique Dieu dans les arts, et pour prolonger le temps de réflexion que nous a partagé Isabelle, nous aimerions t'inviter, cher auditeur, auditrice, à faire un petit exercice en musique.
Pour cela, laisse-moi d'abord te parler de l'artiste musical chrétien dont nous allons écouter la musique. Il est spécialisé dans la louange et l'adoration. Il s'appelle Don Potter.
Voilà, il a écrit un livre qui s'appelle « Face au mur ». Un jour, alors qu'il était en train de jouer, le Seigneur l'a arrêté au milieu d'un champ et lui a dit qu'il fallait qu'il rentre chez lui pour le louer.
Assez étrange comme façon de faire, n'est-ce pas? Il va donc se retirer de la scène pour louer Dieu dans sa chambre, dans un coin, face au mur. Pendant près d'un an, il va se cantonner à vivre des moments d'intimité profond avec Dieu dans sa chambre. Des moments de louange, d'adoration, de méditation. Et si tu veux connaître la suite, je t'invite à lire son livre pour découvrir la puissance de la relation avec Dieu. Méditer dans la Bible est une action active. C'est l'action de converser intimement, de parler, d'avoir de la réflexion, d'avoir de la maturation dans nos idées.
Dans le psaume 77:7, il est écrit « Je me souviens par mon chant, pendant la nuit, mon cœur médite, mon esprit s'interroge. »
Nous t'invitons, au travers de cette méditation instrumentale, à pouvoir, au-dedans de toi, être en communion avec Dieu, à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps de méditer ce que tu as entendu, laisser les images, les sensations, les mots, les sons et les silences te mener vers le Père.
Thank you. Nous avons pris l'habitude maintenant de parfois proposer à nos invités que nous recevons plusieurs cultes de se prêter à un petit jeu qui s'appelle « Questions et vérités ». L'objectif est que notre invité réponde à des questions très concrètes sur comment il ou elle vit sa foi au quotidien avec Dieu. Alors Isabelle, es-tu d'accord de te prêter à ce jeu ? Excellent. Alors c'est parti.
On y va, c'est parti.
Quel est un de tes versets, des fois c'est un peu compliqué, préféré ?
Exactement. Alors, je n'ai pas de verset préféré. Je dis, alors j'ai celui qui commence en Genèse 1 et qui finit en Apocalypse 22.
Ça fait beaucoup de versets.
Parce que je pense que chaque verset est important selon la situation à laquelle tu es en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu es très content, tu ouvres psaume et tu es content de psaume. Et il y a des jours où tu es triste et tu as besoin de consolation, de... Donc les versets, ils deviennent importants et plus beaux selon la situation. Mais il y a le verset de 1 de Jean 1, verset 9, qui dit « Car il est fidèle et juste de vous pardonner les péchés et vous purifier. » J'aime beaucoup parce que souvent, les péchés, on est un peu accablés. Et quand je lis ce verset, je dis « Ok, c'est pas fini. » Il y a encore quelque chose à faire, il va me purifier, on va partir, il me pardonne. Je trouve très joli ça.
Excellent.
Merci, on a entendu pas mal de musique là jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une des chansons chrétiennes que tu aimes particulièrement ?
Alors, j'écoute beaucoup de musique brésilienne et portugaise.
Ah, c'est donc, très riche hein, la musique
et
chrétienne
c'est très
brésilienne.
Riche. Ouais. Donc, mais il y a un cantique de l'hymne du cantique portugais, le titre c'est Tu ne marches pas seul. Chaque fois que j'écoute ça, je pense à Jean-Jacques Goldman parce que lui, il n'a pas eu la chance de marcher seul. Et quand j'écoute que je ne marche pas seul, c'est un soulagement. C'est un hymne qui m'accompagne souvent et parce que c'est mieux de marcher à deux. Et quand le deuxième, en plus, il est trois, ça fait déjà quatre. Et quand il est tout puissant, ça fait beaucoup de monde en train de marcher. J'adore ça. J'adore marcher avec lui.
Comment on dit du coup en portugais
Non andes só.
D'accord, donc voilà, comme ça l'auditeur ou l'auditrice, s'il veut, il tape ça et il trouve.
Non, même de ça.
Alors, un livre chrétien que tu nous recommanderais ?
Le Rencontre du pasteur Roberto Badenas. Pour moi, c'est un livre qui m'amène à rencontrer Jésus par rapport... Dire, quand je lis ce que Jésus a fait avec les gens, je m'identifie, mais avec plein de gens. Avec l'aveugle, avec...
C'est un livre qui parle de quoi, finalement ?
Alors, c'est les rencontres, les miracles de Jésus, les rencontres de Jésus avec différents personnages. Et c'est fou comme chaque personnage, c'est toi. Dire, quand tu regardes l'aveugle, tu te trouves aveugle. Quand tu regardes la femme samaritaine, tu te trouves femme samaritaine. Et c'est écrit avec tellement de détails. Pour ceux qui ont un peu d'imagination, tu as l'impression que tu es là, que tu es à côté de Jésus et que tu es devant lui dans chaque situation qu'il raconte. C'est un très beau livre.
Ah, tu m'as donné envie de le relire parce que je le connais, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu.
Il y a rencontre et il y a le deuxième, c'est rencontre décisive. Je suis en train de lire le deuxième.
D'accord. Il faudra être invité du coup.
Invité directement par Pasteur Badenas.
C'est pas faux.
Une fois où Dieu t'a surprise.
Oula, tous les jours. Alors, je vais vous dire, quand tu me poses cette question, je pense à une situation et je vais essayer d'être réduite, mais si un jour vous m'invitez, je vous raconterai tout en détail. Je suis partie au Portugal le 10 mars 2020. Donc on était en pandémie, mais pas trop encore. Donc je me suis permise de partir avec ma sœur et on rentrait le 17 mars 2020. Et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Parce que le 16, mon fils m'a téléphoné, m'a dit « Maman, je sais que tu n'as pas de portable avec toi. » Donc on a reçu un email en disant que ton vol est annulé. Et je devais rentrer le 17. Ma sœur, elle travaille le 18. Et je dis, non, mais c'est pas possible. Il a dit, donc c'est pas la peine de partir, tout est annulé et on est en état de guerre ici, il y a les frontières qui sont fermées, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et quand j'ai raccroché, je me suis mise à prier avec ma sœur et on s'est dit, on va quand même aller à l'aéroport. Donc on est allé à l'aéroport le lendemain, notre vol était à 10h30 et à 8h30 on était à l'aéroport et il n'y avait pas de solution. Il y avait tellement de monde dans cet aéroport, tout le monde cherchait une solution et il n'y avait pas de solution pour qu'on rentre à Genève. Il y avait trois vols qui partaient, un à Londres, qu'est-ce qu'on allait faire à Londres, un à Francfort, qu'est-ce qu'on allait faire à Francfort, et l'autre partait à Lisbonne, donc pas de problème, on n'avait pas de solution. Et on rentrait déjà en voiture pour rester, pour voir comment on allait faire. Et la fille de mes amis, parce que j'étais dans une famille, un couple d'adventistes, elle nous a téléphoné, elle a dit, il y a une solution, c'est que vous partiez à Francfort, parce que de Francfort, à 10h du soir, il y a un avion qui part en direction à Genève. Donc nous, on est revenus sur nos pas, on est parti, on est arrivé à l'aéroport. La queue pour Lufthansa était, mais il y avait, je sais pas, 30 personnes devant moi. L'avion partait à midi, c'était midi moins 25,
oh là là.
11h30. Stress. J'ai dit jamais. Donc, la question était, pourquoi je dis que Dieu m'a surpris? Parce que ma sœur était avec les valises et avec mes amis, moi je faisais la queue. Et je priais au Seigneur et je dis, regarde, on va faire un pacte tout de suite. Je n'aime pas à partir à Genève spécialement. C'est pas que je m'entête à y aller. Mais si c'est de la volonté que j'y aille, j'ai, pour nous deux, j'ai 500 euros pour le billet, pour moi et ma sœur. On a 25 minutes devant nous et qu'ils aient deux places parce qu'il y avait tellement de monde, donc il fallait qu'ils aient, il fallait que tout. Si un de ces prérogatives ne sont pas là, je pense que c'est que tu veux pas que je retourne à Genève. Donc je te mets dans tes mains. Et tout d'un coup, la queue a commencé à fonctionner. J'arrive devant la personne, je demande, j'aimerais aller à Francfort, à Genève, mais via Francfort. Est-ce que le vol de Genève est assuré? Elle a dit pas du tout. Vous savez, les avions, toutes les heures, il y a des avions qui sont annulés, donc on ne peut pas vous garantir. J'ai dit, regardez, j'aurais besoin de deux places. Elle a dit, on a deux places. Mmh. Et combien ça va me coûter? Elle a dit, 495.
Oh,
j'ai dit, ok, ça rentre. Hein, c'était... et puis j'ai dit, et vous pensez qu'on arrive à temps? Elle a dit, si vous courez, oui. Mmh. Donc j'ai pris mes billets, j'ai pris ma sœur, les valises, on avait des grandes valises et on est parti. Mmh. On a pris l'avion pour Francfort, on est arrivé, l'avion de Genève n'était pas annulé. Et on est resté 5 heures à Francfort en train de regarder le temps passé pour rentrer dans cet avion. Et quand l'heure est arrivée, on était plusieurs, donc il y a plusieurs personnes qui sont passées, il y avait un couple devant moi, il montre son billet, et la dame lui a dit, à partir de là, c'était en anglais, vous ne pouvez pas prendre cet avion. Il a dit, pourquoi? Parce que pour entrer dans cet avion, il faut que vous ayez une adresse.
Jamais.
En Suisse. C'est un vol de rapatriement. Donc, il n'y a que ceux qui ont une adresse en Suisse qui peuvent prendre. Je me suis dit, mais je suis d'Annecy, c'est juste à côté. Elle a dit, non, non. Elle prend l'ordinateur, elle le tourne. C'était marqué, pour entrer dans cet avion, il faut avoir une carte d'identité, une adresse, une résidence en Suisse. Donc, elle a dit, vous allez de côté. Moi, je présente le mien. Je me suis dit, bon, Dieu ne m'a pas amené ici. Bon, elle a dit, vous, c'est pareil, l'autre côté. Et là, quand je me suis vu avec, et on était 5 ou 6, je regarde ma sœur et j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas compris de la réponse de Dieu? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, puisqu'on avait fait un pacte. Donc lui, il ne faille pas, donc je n'ai pas compris quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide ici? Et puis on était en train de prier et de pleurer, parce que c'était 10h moins le quart du soir, on ne connaît personne à Francfort, on ne parle pas allemand, et on n'avait pas d'argent. J'avais 100 francs suisses dans la poche, je me suis dit, ça peut... Et là, on était comme ça. Tout le monde est parti et on est resté. Il y a un groupe de jeunes qui est arrivé, 25, 26 ans, une dizaine de personnes qui s'est mis aussi dans notre groupe. Et puis le monsieur a dit, ok, je vais appeler le central pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de vous. Et donc il prend, il commence à parler en allemand. Et au bout de 5 minutes, il raccroche. Il se tourne vers moi et vers le monsieur. Il a dit, il me pose cette question. Vous croyez au miracle? J'ai dit... Je ne savais pas quel était le miracle. Il tourne l'ordinateur et c'était marqué pendant quelques minutes, tous les passagers qui ont un billet en direction de Genève peuvent prendre l'avion. Dieu m'a surpris et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est pas qu'il ait fait ce miracle. Ok, je finis tout de suite. C'est pas le miracle, c'est quand on est arrivé à Genève. Parce qu'on est arrivé à Genève, on a compris pourquoi. Les jeunes qui étaient venus à côté de nous, c'était des militaires français avec ses grosses bagages. Et les États sont mis d'accord pour qu'ils puissent rentrer dans l'avion.
Ah,
et à
non.
Ce moment-là, pendant quelques minutes, nous, les enfants de Dieu, Dieu sait tout, de là, il savait qu'on pouvait faire. Et il m'a surpris parce qu'il a dit, tiens, mais il sait même quand les États vont avoir besoin de se mettre en contact, ils s'accordent pour que nous, on puisse rentrer.
Amen. Bah, écoute, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté de répondre à nos petites questions, puis d'avoir partagé ce beau témoignage. Dieu est vraiment surprenant, tu as raison. C'est toujours passionnant de voir comment Jésus se manifeste dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu vivant, qui agit encore aujourd'hui, c'est un vrai partenaire de vie qui nous aime, qui nous sauve. Et toi, cher auditeur, comment tu aurais répondu à ces questions?
Et si on priait? Prier, c'est parler à Dieu. Impossible de ne pas trouver de correspondant. Il est au bout du fil. Et je crois qu'il est bon de prier pour les personnes qui n'ont pas connaissance de ce plan du salut. Et j'aimerais inviter Isabelle, si tu le veux bien, à pouvoir prier pour le message que tu nous as transmis aujourd'hui, un message qui est riche de sens et que le monde a besoin d'entendre. Merci.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que même si des fois on n'a pas conscience de tout ton pouvoir, de tout ce que tu es là et à chaque instant tu nous montres ta force, ta main toute puissante à prendre soin de nous, à nous protéger. Et même si des fois on réalise tout ce que tu fais pour nous, nous savons que tu es là. Et cette prière maintenant, c'est une prière de demande d'aide. Pour tous ceux qui en ce moment se sentent seuls ou qui ont des problèmes qui paraissent tellement grands, que toi, tu puisses te révéler, Seigneur, dans leur vie, que tu puisses montrer ta force, ton pouvoir et surtout ta présence qui console nos cœurs. Toi, tu nous as dit que tu écraseras le mal. Tu l'as fait. Et n'a plus rien à craindre. On est entre tes mains et nous savons que le futur que tu as pour nous, il est merveilleux et il dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Fais que toutes ces choses soient une réalité dans notre vie et reste à côté de tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui ont des difficultés. Reste à côté d'eux cette nuit, demain et toute leur vie. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Pour notre action de la semaine, je te propose de faire un peu de recherche. Cherche un verset, une promesse dans la Bible que tu ne connais pas et qui te dévoile le plan du salut, un verset qui parle de délivrance, de libération. Ce sera un verset que tu vas te répéter tous les jours de la semaine au moment que tu voudras de la journée.
Mais Brie, si on doit chercher un verset qu'on ne connaît pas, comment le trouver ?
Question pertinente. Tu peux y aller en feuilletant ta Bible, ce qui est plutôt sympathique, ou alors en t'aidant des multiples applications de la Bible qui existent pour trouver des versets par thème. Je te donne un exemple de verset que j'ai trouvé pour moi. L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roc en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. Psaume 18, 3. Je vais pouvoir me répéter ce verset toute la semaine afin qu'il puisse être ancré en moi et que je puisse me souvenir de ses paroles quand je me sentirai moins bien. Bon courage pour ton défi.
Et merci, Brillant, pour ce défi. Que le Seigneur bénisse et inspire ceux et celles qui auront envie de le relever. Nous voilà arrivés au terme de notre culte. Merci encore Isabelle d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ces deux cultes avec nous. Sois toi et ton foyer abondamment béni. Sois béni vraiment dans ton ministère. Vraiment, tu nous as bénis, donc merci infiniment.
Merci.
Merci également à toi, Brillant, et merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir partagé ce temps avec nous. Je te souhaite une excellente nouvelle semaine sous le regard protecteur et aimant de notre Papa Céleste. À la semaine prochaine. Bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.